Eh bien oui, encore un nouveau Par ici des sorties, une émission donc, qui s'installe un peu dans la durée, parce que hier, à ma grande surprise, on m'a appris qu'on en était déjà à la 60e, vous rendez-vous compte. Donc, Miles Davis, on va le retrouver bien sûr, mais aussi effectivement quelques nouveautés fort intéressantes. Mais bien entendu, si on veut faire du Miles Davis, on en a encore pour pratiquement, on va dire, un an à ce rythme-là. Par conséquent, on va accélérer le processus, on va retrouver Miles où on l'avait laissé hier, c'est-à-dire Royal Roast. Mais pour une séance un peu plus tardive, on l'avait quitté le 4 septembre et on va le retrouver le 11 septembre. Cette fois-ci, il va donc nous décrire à sa manière le Royal Roast, Miles Davis. Le Royal Roast, qui appartenait à un certain Ralph Watkins, était donc un de ces nouveaux lieux du jazz. À l'origine, c'était un restaurant spécialisé dans le poulet, tout simplement. Mais en 1948, Monty Kay avait convaincu Ralph de laisser Symphony Seed y produire un concert le jour de la fermeture. Par conséquent, restaurant, on va dire, toute la semaine et le samedi, concert de jazz. Monty Kay, c'était tout simplement un jeune blanc-bec, un jeune mec blanc, dira Miles Davis d'ailleurs, qui traînait dans le milieu du jazz. On ne sait pas trop ce qu'il y faisait, mais enfin, il était là. Et à cette époque, il se faisait passer pour un noir à la peau claire. C'est vous dire un peu quelle estime avait Miles Davis de Monty Kay. Tout de suite, donc, Miles Davis non net avec ce move. Bien voilà, donc Miles Davis non-net avec ce move. On va donc là aussi essayer de faire la part des choses parce que toutes ces retransmissions radio ont prêté longtemps, on va dire, à divergence, c'est le cas de le dire, entre les différents discographes. En effet, Jepsen, qui était le premier à avoir fait de la discographie, considère que cette séance totale a lieu le 11, alors que Brian Rust, quelques années plus tard, et saluant ce monsieur qui vient de décéder, lui, effectivement, et je suis un peu d'accord avec lui quand on va écouter la retransmission et la qualité du son, fait valoir que ce qu'on va écouter maintenant aurait eu lieu le 18 septembre. Par conséquent, après tout, quelle importance, hein, toujours est-il que c'est Miles Davis, donc en septembre 1948, avec son nonette, et ici, donc, on va retrouver Mr. Hagood, le chanteur du groupe, pour ce thème qui a pour titre, évidemment, Darn That Dream.
Darn that dream, I dream each night. You say you love me and you hold me tight. But when I awake, you're out of sight. Oh, darn that dream. Darn your lips, darn your eyes. They lift me high above the moonlit skies. Then I tumbled out of paradise. Oh, darn that dream. Darn this one-track mind of mine. It can't understand that you don't care. Just to change the mood I'm in, I'd welcome a nightmare. Darn that dream, and blessed too. Without that dream, I never would have you. But it haunts me and it won't come true. Oh, darn that dream.
Miles Davis, donc Nonette avec ce Darn That Dream. Et Miles Davis va continuer un peu à nous expliquer un peu ce qu'il faisait à cette époque-là. Parce que, eh bien, c'est l'époque où, effectivement, avec Gil Evans, ils ont mis en place ce style musical qui va devenir le style musical qui va donc développer un nouveau jazz à partir des années 48-49 et qui arrivera, bien sûr, très prochainement au fameux album Birth of the Cool. Alors, ce que souhaitait Miles, il explique ainsi, ce devrait être, avais-je dit, le voxing en quartet. Je vous rappelle qu'on a 9 musiciens, avec des voix de soprano, d'alto, de baryton et de basse. j'étais la voix soprano, Likonitz l'alto, le cor servait aussi pour le voicing alto, le baryton pour le voicing baryton et le tuba basse pour la basse. Je considérais ce groupe comme un chœur qui serait un quartet. Je voulais des instruments qui sonnent comme des voix humaines. Miles Davis, Hallucinations. Miles Davis, Nonet Hallucination, en direct, retransmission radio, donc du Royal Roost. Alors c'est l'époque, je vous l'ai dit, où Miles travaille avec Gil Evans, et il va déclarer ceci, Miles Davis. Gil et moi avions commencé à faire des choses ensemble. J'étais à la recherche, pardon, de quelque chose, d'un véhicule dans lequel je pourrais prendre davantage de solos, dans le style que j'avais dans l'oreille. Ma musique était plus lente, pas aussi intense que celle de Bird. Et puis, par la même occasion, comme il s'est fait quelques amis dans le milieu du jazz, notamment parmi les musiciens noirs, il va mettre les choses au point en déclarant, parce qu'il a engagé quand même Lee Konitz, et un musicien blanc, il va déclarer « Quand j'ai engagé Lee Konitz, beaucoup de noirs s'en sont pris à moi, disant qu'ils n'avaient pas de travail et que j'engageais des blancs. Je leur ai dit simplement que s'il y en avait un parmi eux qui pouvait jouer aussi bien que Lee, je l'engagerais immédiatement. J'ai engagé un type qui soit rouge, vert avec des petits pois ou jaune, peu m'importe. Je l'engageais parce qu'il joue et non pas pour sa couleur. » Miles Davis, Moon Dreams. Miles Davis, Moon Dreams, donc le 18 septembre 1948. Et afin que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la différence qu'il y avait avec le quintet de Charlie Parker, il y avait eu une retransmission radio, soi-disant à la même date, ce qui paraît un peu surprenant, enfin peu importe. C'était toujours au Royal Roost, et on va écouter tout de suite donc le quintet de Parker avec ce Constellation, et c'est le même jour. Thank you. Charlie Parker, Constellation, en direct donc, du Royal Roost le 18 septembre 1948. Et c'est déjà le début de la fin, si on peut dire, du quintet de Charlie Parker avec Miles Davis, parce que tout va mal, tout va très mal. Et Miles déclara à cette époque que tout allait mal dans le groupe. Max et moi estimions que nous pouvions nous en sortir tout seuls et on en avait vraiment ras-le-bol des enfantillages et des stupidités de Byrne. En effet, Byrne, la plupart du temps, ne les payait pas. Il avait tellement besoin de fric pour sa dope que bien tout passait là-dedans. Et par conséquent, il appelait Miles Junior, allez savoir pourquoi. Il disait « Junior, ce soir, t'auras pas un rond ». Donc vous imaginez la tronche de Miles, c'était pas le genre de gamin à se laisser malmener, même par Charlie Parker, surtout quand on parlait pognon d'ailleurs. Et par conséquent, il déclara « Tout ce qu'on souhaitait faire, Max et moi, c'était de la bonne musique, et pas plus que cela ». C'est un peu la raison pour laquelle Miles est en train de marquer de sa pierre l'édifice de l'histoire du jazz. Et c'est vrai que la différence est notable. Une nouvelle preuve avec ce thème de Charlie Parker, « À le chat ». Et bien voilà, ça se termine ainsi, ce morceau un peu chanté, coupé, c'était un peu la tradition parfois à l'époque, on va dire. C'était bien dommage, mais c'est ainsi. Et donc, on va écouter un dernier thème par Charlie Parker Quintet. Et vous entendez dans ce morceau, donc à le chat, un tout petit solo de Duke Jordan. Et je vous ai déjà expliqué que Duke Jordan et Miles, c'était pas le grand amour. À tel point que Miles réussit quand même, au bout d'un certain temps, à faire débaucher, il n'y a pas d'autre mot, Duke Jordan. Il aurait souhaité, et Miles, et à cela se joignait d'ailleurs Max Roach, que Bud Powell vienne rejoindre le quintet de Charlie Parker. Malheureusement, ben, Bud Powell avait de gros soucis, mais d'énormes soucis, vous le savez sans doute, de santé. En effet, bon, en dehors de la drogue et en dehors de... Il s'était mis en plus à boire, mais vraiment comme un tonneau, il n'y a pas d'autre mot. Et par conséquent, chaque fois qu'il devait venir jouer, eh bien, Parfois, il était devant la porte, incapable de rentrer. Et donc, Miles et Max allaient le chercher. Ils disaient, écoute, ne bouge pas, on va... parce que Parker n'en voulait absolument pas. Et donc, ils essayaient de tout faire pour pouvoir justement faire rentrer Bud dans le club. Eh bien, le temps qu'il rentre dans le club et qu'il ressorte, Bud Powell avait fait 50 mètres. Il avait trouvé un bar qui était ouvert et il était rond comme une queue de pelle. Impossible de le faire rentrer ni sortir. Par conséquent, ça ne se fera jamais, on va dire, mais beaucoup plus tard peut-être. Toujours est-il que, un peu plus tard, parce que Duke Jordan, eh bien, Miles ne veut même plus le voir ni l'entendre, Charlie Parker embauchera Al Haig pour remplacer Duke Jordan de manière permanente. Et Miles déclara « Je n'étais pas très chaud quand Bird a engagé Al. Je n'avais rien contre lui, mais je pensais que John Lewis et Tad Amron étaient de meilleurs pianistes. C'est vous dire si l'ambiance devait être particulière entre les deux hommes. » Miles n'hésitant pas à dire d'ailleurs que si Bird avait engagé Al Haig, c'était simplement parce que justement... Miles n'était pas tout à fait d'accord. La suprématie, le chef de groupe était en train de se dessiner. Cela devait durer encore 2-3 mois parce que les engagements étaient signés. Mais au début de 1949, eh bien, ce sera la séparation définitive entre Miles et Charlie Parker. Avant cela, on écoute dans le dernier thème enregistré ce jour-là, le 18 septembre 1948, c'est Barbados. Avec ce Barbados, on va donc quitter Miles Davis, Charlie Parker. On les retrouvera lundi pour de nouvelles aventures, toujours au Royal Roost, parce qu'ils seront là engagés jusqu'à la fin de l'année. Et pour l'instant, on va se plonger du côté des nouveautés, et notamment des nouveautés avec les jazzmen français. Sur le label Abalon, le pianiste Denis Badeau, qui est en résidence actuellement à 7, vient de signer un album un peu déconcertant, inclassable d'ailleurs. Une musique à la fois écrite et improvisée. C'est du jazz, certes, mais le violon de Régis Subi va y mêler des sonorités classiques. Donc le quartet avec Denis Badeau piano, Régis Subi violon, Tom Artus à la trompette et Sébastien Boisseau à la contrebasse pour ce thème John B, extrait de l'album HB3 paru chez Abalone. Thank you. Denis Badeau, John B. B, si vous préférez. L'album s'appelle H3B, il est paru sur le label Abalon. Alors, grande nouveauté, je viens de l'apprendre, et grâce à la collaboration d'Antoine, dorénavant, vous pourrez trouver toutes les playlists de l'émission avec les caractéristiques de tous les disques que nous passons. Par conséquent, précipitez-vous sur le site de Divergence FM, divergence-fm.org, et à part ici les sorties, vous aurez donc tout ce qu'on a pu passer seulement depuis hier. C'est tout récent, par conséquent, n'allez pas chercher d'ici un mois parce que ça n'y est pas. Mais par contre, dorénavant, vous pourrez retrouver avec la date vraiment tout ce que vous désirez savoir sur les albums que nous passons. Et notamment, ça peut être important au niveau des nouveautés, car dans bien des cas, je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises, nous passons des labels qui ne sont pas distribués en France. Par conséquent, vous aurez peut-être besoin des références pour aller les retrouver s'ils vous ont plu et si vous souhaitez les retrouver notamment sur Internet, parce que à part cela, je ne vois pas comment vous pourrez faire pour les avoir. Enfin, tout ça, c'est de l'anecdote, on va dire. Et puis, bon, si toutefois vous n'arrivez pas à avoir tout ce que vous désirez, il y a la possibilité de téléphoner aussi à Divergence pendant l'émission. Je m'efforcerai de vous répondre pendant qu'un morceau passera. Je vous rappelle le numéro de téléphone, le 0467... petit trou de mémoire, nous ne savons plus, je vous le dirai tout à l'heure, c'est pas bien grave. 66, 33, 33, la mémoire revient, voyez, tout arrive, Alzheimer nous a quittés, par conséquent, tout va bien. On va donc continuer cette aventure du jour avec notre nouveauté, un album qui devrait faire date dans les meilleurs albums de l'année, je pense. En effet, c'est un album qui est une pure merveille, une écriture léchée, et on la doit à Denis Badeau. Il y a 6 ans, avec l'album L'Hymne au Soleil, révolutionné un peu ce que l'on connaissait des musiciens français avec vraiment quelque chose d'une petite merveille, eh bien il revient et il remet le couvert avec une très belle suite qu'il appelait Clair Obscur et duquel nous allons écouter tout simplement le Nocturne. Thank you. par Lionel Belmondo, Nocturne, extrait de l'album Clair Obscur, paru sur son label B-Flat, distribué par, je crois, Discographe, ça fait erreur de ma part. Mais bon, ça, je ne peux pas vous l'affirmer parce que je ne connais pas tous les distributeurs. Malheureusement, je connais un peu les labels, mais pas les distributeurs. On ne peut pas tout savoir. Voilà. Et par contre, ce que je sais, c'est qu'hier soir, j'ai regardé Mezzo parce qu'il y avait un concert de Omar Sosa. Et comme ces derniers viennent de sortir un nouvel album qu'on passera dès lundi d'ailleurs, parce que là aussi on sera un peu en avant-première, ils nous en font aussi en avant-première. Et par conséquent, j'ai été très surpris de constater que Mezzo, eh bien, en arrivait maintenant un peu, au, on va dire, comme pour le Billboard, vous savez, au classement des meilleures ventes et des meilleurs disques de jazz. Et par conséquent, alors qu'il est sorti il y a 3 jours, eh bien, l'album de Lionel Belmondo est déjà parmi les 5 meilleurs albums d'après la chaîne Mezzo. Je pense que c'est fortement mérité. Je ne sais pas ce qui se passera dans le courant des 9 mois à venir, mais il ne faut aucun doute que cet album, si on devait faire un classement des meilleures ventes dans le premier trimestre, il en ferait certainement partie. Je vous indiquais donc que dorénavant, vous pourrez trouver sur le site, je rappelle, divergence-fm.org, la playlist de l'émission, en vous indiquant que parfois, il m'arrivait de diffuser des albums non distribués en France. C'est le cas de celui-ci qu'on va écouter. C'est un album qui est paru en Italie. Alors bien sûr, c'est un pianiste italien, comme il se doit. Il a pour nom Lorenzo Erra, E-2-R-A. Et il ne renie pas ses pairs. En effet, de par son toucher raffiné et élégant, on ne peut que penser, bien sûr, à Keith Jarrett et Bill Evans. Et pour son album Real Life, qu'il a fait paraître chez Ultrasound, eh bien, il a tout simplement intitulé l'album comme un hommage to Bill Evans. Thank you. Lorenzo Era to Bill Evans, un hommage donc à ce grand pianiste disparu qui a bien sûr joué avec Miles Davis sur l'album Kind of Blue, donc un album de légende. On n'est pas encore là, croyez-moi, avant qu'on arrive à Kind of Blue, on a encore quelques bons moments à passer avec Mr. Miles. On va terminer l'émission, il faut bien que ça se termine un jour, avec un autre pianiste et avec un album surprenant là aussi. On n'hésite pas à dire, certains tout au moins, une des plus expériences musicales du moment. Charlie Mingus avait composé en 1961 le thème « Réincarnation of a Lovebird ». Eh bien, Bruno Ruder, le pianiste, tout jeune pianiste né à Bourg-en-Bresse en 1978, a souhaité redonner à ce thème une nouvelle vie en y adjoignant la voix de Jeanne Haddad, qui elle va donc retrouver toute l'émotion que Eric Dolphy avait donné à ce thème-là. Bruno Ruder piano, Jeanne Haddad voix et Vincent Lequang pour ce Réincarnation of a Lovebird paru sur le label Sans Bruit. Alors ne le cherchez pas dans les bacs, le label Sans Bruit, parce qu'il n'est distribué que sur téléchargement. Par conséquent, ne perdez pas votre temps, vous ne le trouverez pas dans les bacs. Hein. Et l'album s'appelle Yes is a Pleasant Country, donc par Bruno Ruder trio, Réincarnation of a Lovebird. Effectivement, un jazz expérimental, vous voulez mon humble avis, eh bien, les expériences c'est gentil, mais c'est parfois un peu gonflant. Voilà ce que j'avais à dire sur ce morceau-là. Je vais en rester là sur mes commentaires désobligeants pour vous rappeler qu'on se retrouvera lundi pour une nouvelle émission dont De Par Ici les Sorties, où on retrouvera Miles Davis et, comme je vous l'ai promis, Omar Sosa. Donc. Et puis, vous allez retrouver tout de suite après l'émission suivante, Vendredi Théâtre, avec Florent Robin et Yves Guercan, qui ont reçu pour l'occasion... Donc, et reçoivent pour le Théâtre des 13 Vents Florence Giorghetti et Émilien Tessier. Pour le Domaine d'eau, Frédéric Ferrer, le metteur en scène, avec Astrid Catala et Benjamin Nicolas. Et puis pour le Théâtre Jean Villard, une interview de Gilbert Rouvière et Richard Mitou. Et pour terminer, pour le Théâtre de la Vignette, Stéphanie Marx sera donc l'invitée pour parler des entretiens de Marilyn Monroe. Voilà.